et bienvenue sur Amcamgram, le podcast qui met en lumière les métiers de l'account management. Je m'appelle Darina Senagi et pour cette saison 2, je vous propose de vous munir d'une pioche, d'une lampe frontale et de gros souliers parce qu'on va aller explorer des sujets de fond en lien avec l'account management. En parallèle des interviews individuelles, ce n'est donc pas un mais deux invités qui croiseront leur point de vue et leur méthode de travail. Vous êtes parés pour l'exploration? Alors c'est parti! Bonjour Gauthier.
Bonjour Darina.
Comment ça va?
Au top, super. Je suis en vacances après-demain, donc c'est cool.
Ah, ça c'est la lumière au bout du tunnel, on aime ça.
Non, c'est juste un petit bol d'air, mais c'est pas un tunnel, non. je serais très content de revenir travailler aussi.
Bien sûr, pareil pour moi. En tout cas, merci beaucoup de venir sur le podcast. Donc toi, tu es Head of CSM depuis un an et demi chez Swile. La carte ticket restaurant qu'on ne présente plus, voilà, simple, flexible, moderne. Et d'ailleurs, j'en profite pour te féliciter et féliciter toute l'équipe de Swile pour le tour de table de 70 millions d'euros fin juin. Et voilà, on sent vraiment le dynamisme de l'équipe et en particulier de ton équipe CSM puisque là aujourd'hui, tu gères une équipe de 6 personnes et tu en recrutes 4 autres d'ici la fin de l'année. Donc voilà, super belle croissance et hâte que tu nous parles de Swile. Mais avant de commencer, peux-tu me dire Gauthier, quel est ton plat préféré? C'est pour mes stats perso.
Là, on est en été, j'étais en Bretagne le week-end dernier, et du coup j'aime beaucoup les galettes bretonnes, je trouve ça extrêmement bon. Donc c'est un de mes plats préférés.
Ok, ça marche, la galette saucisse, c'est ça?
Non, la spéciale Gauthier où il y a de l'oignon confit au cidre, des champignons, enfin un peu plus évolué. Mais
ouais,
j'aime beaucoup.
Trop cool. Eh ben merci beaucoup. À présent, je te laisse sortir de l'anonymat.
Donc moi, c'est Gauthier Lefebvre, j'ai 33 ans, parcours pro. Écoute, j'ai fait une école d'ingé agréé à l'origine avec de la finance. Je suis parti dans ce milieu-là pendant 5-6 ans où j'ai fait plusieurs jobs pour une grosse entreprise qui était l'Union nationale des coopératives agricoles, dans le milieu des matières premières agricoles, où j'ai fait pas mal de choses, de l'analyse, du brokerage, du trading. Donc ça a été pour l'instant le gros de ma carrière, jusqu'à mes 31 ans à peu près. Et puis ensuite, je suis allé aider un copain qui avait monté une start-up, qui était sur sa première levée de fonds et qui avait besoin d'un coup de main sur Excel. Et comme je gère bien Excel, je suis allé l'aider quelques mois, j'étais parti de mon entreprise. Ça me plaisait, le milieu startup le plaisait, donc je me suis dit tiens c'est peut-être le moment d'aller voir ailleurs et de pas rester dans ton milieu des matières premières d'où tu venais et voilà, c'est pour ça que j'ai atterri chez Luncher à l'époque, maintenant Swile, et je ne regrette absolument pas.
Ah ouais, c'est spécial quand même de passer d'une coopérative agricole à une startup finalement.
Mais oui, effectivement, c'est pas. Je pense qu'il y en a pas beaucoup comme ça qui étaient dans des structures type un peu grosse boîte à l'ancienne à faire des marchés niche finalement. Hein, matière première agricole, c'est plutôt niche et à aller se reconvertir en startup. Mais en tout cas, moi, je suis très content et finalement, j'ai envie de dire tiens, j'ai réussi parce que ça fait un an et demi que je suis chez Swile et j'adore ce que je fais.
Toi, quand t'es arrivé chez Swile il y a un an et demi, l'entreprise ressemblait à quoi?
Alors, c'était Luncher. J'étais le 70e arrivé. C'était déjà une grosse structure. Et je ne peux pas comparer. Alors, j'ai fait quelques mois dans une plus petite start-up avant. J'ai un petit moins de comparaison. On va dire que j'arrive dans un milieu où rapidement, très très vite, je comprends qu'il y a de l'initiative. On attend. Il faut faire les choses, en fait. Vraiment, doers, c'est une de nos valeurs. Et clairement il faut aller dedans. Donc au début, tu dis tiens, tu prends un peu d'initiative, mais t'es timide, tu demandes une petite autorisation, tiens, je compte faire ça. Et puis en fait, très rapidement, je comprends que je suis là pour faire quoi, et pas que pour suggérer. C'était l'état d'esprit. Donc cet état d'esprit, il n'a pas changé. En revanche, on est passé de 70 à 250. La boîte, quand je suis arrivé, elle ressemblait à une grosse start-up en pleine croissance, mais où il y avait beaucoup de bricolage encore. parce que bah, il faut faire les choses vite, machin, donc on doit avancer. Donc, voilà, on ne fait pas du corner case, on va droit au but. Donc, ça allait déjà très vite, c'était déjà super intéressant. Et voilà, et donc on en était là quand je suis arrivé, et un an et demi plus tard. Alors, ça doit toujours aller très vite, il y a toujours quand même quelques bricolages, mais on commence à vraiment bien se structurer. La boîte a grossi, c'est hallucinant, quoi. Là, on part international, on part sur du multiproduit. On a plein de ressources pour aller encore plus vite dans ce qu'on fait et encore plus dans le détail. Donc, c'est super intéressant.
Ouais, c'est vertigineux. Et si justement je me focus sur ta verticale CSM, comment est-ce que tu en es arrivé à être aujourd'hui Head of CSM? Est-ce que tu peux nous expliquer justement la partie structuration de l'équipe et aussi peut-être remettre dans le contexte en nous décrivant tout d'abord la structure business chez Swile?
En fait, il est réparti. On a trois types d'interlocuteurs en fait. On a d'une part les entreprises qui vont choisir Swile comme prestataire pour fournir des titres restaurants. On a les bénéficiaires des titres restaurants qui donc sont nos deuxièmes interlocuteurs. Et le troisième interlocuteur, ça va être les établissements dans lesquels on va utiliser les cartes. Donc les restaurateurs, la grande surface, etc. Utilisateurs finaux, on n'a pas, y a pas de côté biz là-dessus, c'est des utilisateurs. En revanche, on a du côté commercial et avec les établissements dans lesquels on va dépenser les cartes et avec les entreprises qui nous choisissent comme prestataires. Donc, moi, je suis focalisé côté corpo, hein, CSM corpo, donc pour les entreprises qui nous choisissent. Et donc, la structure du business là-dessus, c'est de l'inside sales jusqu'aux entreprises qui font 100 salariés. Donc, tout se passe à Montpellier avec des équipes inside dédiées en fonction de la taille de l'entreprise. Et ensuite, pour du plus de 100, on a une équipe mid-market qui, eux, vont faire des rendez-vous terrain. Donc, 200 à quelques milliers d'utilisateurs. Cette équipe mid-market travaille en collaboration avec une équipe SDR qui va leur prendre des rendez-vous, hein, même si eux-mêmes font aussi les sales, ont des objectifs sur la prise de rendez-vous direct. Donc, ça reste un partenariat main dans la main. Et puis ensuite, on a aussi une équipe grand compte, mais là, on est quand même sur un marché complètement différent avec des cycles de vente qui sont plus longs. Voilà, c'est plus compliqué. Mais donc, l'organisation du market, c'est vraiment sur d'un côté inside, de l'autre côté terrain, en fonction de la taille du compte. Et nous, CSM Corpo, on s'adresse tout particulièrement au mid-market et aux grands comptes, et pas tellement aux inside sales, parce que on se rend compte que la complexité du compte ne demande pas forcément le même accompagnement. Y a pas, on n'a pas la même complexité parce que il n'y a pas plein de points de facturation, plein de points de livraison, plusieurs admins onboardés, etc., etc. Donc, voilà, nous, côté CSM, on se calque. On va se focaliser vraiment sur le mid-market principalement aujourd'hui.
Et c'est quoi alors la spécificité des clients mid-market?
Bah, mid-market, c'est très large. On peut aller de 100 collaborateurs à 6, 8 000. Donc, elles sont multiples. Elles sont multiples, elles dépendent de l'organisation de l'entreprise, elles dépendent des interlocuteurs. Mais ça, finalement, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi dans notre métier, c'est que la spécificité, il n'y en a pas une, c'est qu'il y a des clients à onboarder et le tout est de comprendre les besoins du client, vraiment, d'aller en profondeur dedans et de s'adapter à ça. Donc, pour moi, c'est bah, la spécificité, c'est d'être présent pour les clients et de comprendre justement leurs besoins à l'instant T. Et derrière, la prise en charge sera peut-être plus ou moins longue, plus ou moins compliquée en fonction de ses besoins.
Ok, ouais. Et pour que je comprenne bien, donc tu parlais de la relation des CSM avec les autres départements de l'entreprise. Comment est-ce que toi tu vas faire pour récupérer de l'information des biz dev pour ensuite gérer tes comptes?
Alors, nous, on a commencé à bien processer les choses. En fait, le sales, il est dans l'action et c'est lui vraiment qui a le lead sur la relation client jusqu'à la signature du contrat. Ensuite, à partir de la signature du contrat, donc sur le mid-market, c'est le CSM qui entre en jeu et qui prend le lead sur la relation. On essaie de garder le triptyque CSM, gestionnaire de compte, sales dans les emails, en copie, etc. pour que les deux parties prenantes, hein, CSM, CS, sont au courant des échanges qu'il y a avec le client. Mais c'est vraiment le CSM qui a le lead du compte. En revanche, j'aime citer cette expression un peu, le CSM, il passe par la porte, il passe pas par la fenêtre. c'est pas les mêmes profils. Le sales, lui, en revanche, il est là. S'il doit forcer une relation, je sais pas quoi, c'est à lui potentiellement de passer par la fenêtre ou de trouver des alternatives. Nous, on est là vraiment pour dire, OK, je suis le côté technique de la chose. Ça veut dire qu'on doit m'apporter un client qui est mature, qui est prêt à commander. Et moi, à partir de ce moment-là, je le gère de A à Z. Donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a la passation. Et du coup, cette passation, elle se fait en général par une prise de contact CSM sur Slack. Le sales doit remplir certaines informations parce qu'on va créer un objet dans Salesforce pour suivre le client tout au long de son onboarding. Et la première case, en fait, c'est de remplir quelques questions sur la spécificité du compte, enfin, on va dire sur les critères qui vont définir la complexité du compte. Et grâce à ces réponses-là, nous, déjà, on va se rendre compte, on va savoir si ça va être plutôt rapide ou plutôt compliqué. La séquence d'emails qui va être envoyée va être adaptée en fonction de ce qui sera coché. Et voilà, donc il y a d'une part ce côté assez formalisé sur Salesforce où on doit répondre à des questions, on doit remplir des cases. Donc ça, c'est ce qu'il fait. Et puis d'autre part, l'échange spontané entre le CS et le CSM. Ah oui, bon, bah, sur ce compte-là, vas-y, dis-moi un peu ce qui se passe, c'est quoi le contexte, comment ça se passe avec l'admin, elle est plutôt à l'aise avec Excel. Elle est plutôt un peu à l'ancienne, faudrait être particulièrement pédagogue, etc. etc. Voilà. Donc c'est deux, on va dire, du spontané et puis du très normalisé dans les relations qu'on a avec les sales au moment de la passation.
Et juste pour revenir sur les séquences email, c'est les CSM qui les rédigent et qui choisissent quelles séquences utiliser.
C'est des séquences qu'on a, effectivement, c'est nous qui les avons rédigées. Après, on a toute une équipe marketing qui vient nous aider derrière et on essaie d'en automatiser le plus possible. Donc, c'est du travail, c'est de l'amélioration continue, hein, c'est du travail qui a toujours lieu. Et donc, en fonction des critères, ça envoie ces emails. En fait, ça va guider parce que un admin qui n'envoie pas sa carte sur plusieurs points de livraison, il n'a pas forcément besoin d'être formé dessus. Et du coup, ça vient alléger l'email. Donc potentiellement, ça, on va droit au but. L'admin, c'est plus clair dans les explications. Peut-être qu'il peut être autonome plus rapidement. Donc voilà. Mais c'est, il n'y a pas tellement de choix. C'est vraiment, notamment sur cette séquence en question, c'est par rapport aux critères. Des critères tangibles, quoi. Vraiment, en fait, c'est du factuel. Et après, derrière, ça part. On peut bloquer éventuellement l'envoi de ces emails si on voit qu'il faut le gérer plutôt à la mano, mais en général, il n'y a pas besoin.
Ok, très très clair. Donc là, tu m'as bien expliqué la structure business et la relation des CSM avec les autres départements de l'entreprise. Comment tu pourrais décrire concrètement le poste d'un CSM chez Swile en deux phrases?
Alors, on va faire ça rapidement. Le poste de CSM chez Swile, c'est un customer centric. Et de toute façon, c'est la base du CSM, mais c'est super important parce qu'il y a d'autres responsabilités à côté qui sont très intéressantes. Mais il faut vraiment avoir en tête que la priorité, c'est la satisfaction des clients parce que c'est ça. Si ça part bien avec un client derrière, c'est pas du tout cuit, mais c'est quand même beaucoup plus simple. En revanche, s'il y a des petits accros, voire si c'est compliqué. Pouvoir rattraper, c'est une horreur. Donc vraiment, la priorité, le travail, c'est être là pour les gestionnaires de compte, pour les clients, et s'assurer que ce soit juste aux petits oignons et que tout soit au top. Et derrière, ça, je pense que ça représente à peu près 70% du temps de travail. Et derrière, on a 30% du temps de travail où, pour moi, le CSM, il y a... C'est peut-être, je manque peut-être un peu d'humilité en disant ça, mais ça doit être assez proche de la réalité. Je pense qu'au sein d'une entreprise, le CSM est certainement une des personnes qui connaît le mieux et le produit et le client. En forme nos clients sur le produit. Donc forcément, on doit le connaître sur le bout des doigts, le produit. Et en plus de ça, comme on est au contact du client tous les jours, et c'est nous, globalement, qui connaissons mieux les problématiques des clients. Et en fait, ça c'est une vraie valeur ajoutée, hein. C'est quelque chose qu'on doit mettre à profit dans une entreprise parce que c'est ce qui permet aussi de donner des directions ou, en tout cas, de venir confronter des opinions ou des choix qui ont été faits. Donc, il y a 30% du temps, c'est utiliser justement ça, soit pour améliorer les process internes au CSM, soit pour les mettre à contribution en étant justement contributeur sur des projets avec l'équipe marketing, avec le service client, avec les sales, que sais-je, à peu près avec tous les services possibles et imaginables de l'entreprise.
Oui, parce que tu formes le client sur le produit, mais vu que tu connais hyper bien ton client, potentiellement tu formes aussi le produit sur les clients.
Exactement. En fait, c'est. Oui, de base, oui. En plus, chez Swan, une des spécificités, c'est qu'on n'a pas d'équipe produit dédiée. Ça, c'est la vision d'organisation que Loïc, le fondateur, met en place. Et du coup, c'est valorisant pour beaucoup d'équipes. Ça donne beaucoup d'autonomie à l'équipe innovation, où on fonctionne vraiment en squad. Ça donne aussi, du coup, de l'importance au CAIR, au CSM, enfin, à tous les retours qu'on peut avoir justement des acteurs de l'entreprise. Donc, c'est super intéressant. Donc, évidemment et heureusement que le produit s'adapte aux clients par ce biais-là. C'est primordial.
Ah, c'est hyper intéressant cette organisation où vous êtes en squad et que finalement, toi, en tant que CSM, tu vas avoir une voix aussi importante que quelqu'un qui serait normalement au produit pour faire évoluer la solution. Ça, je trouve ça hyper
Ouais.
intéressant.
Bah, c'est super intéressant et du coup on parle beaucoup avec les autres équipes. Il y a un point INO toutes les semaines, CSM, CAIR, INO. On est impliqué dans les roadmaps INO. Non, c'est vraiment intéressant et surtout nous aussi, il y a des sujets CSM, on se dit, bah tiens, dans notre roadmap à nous de ce semestre, de ce trimestre. On va aller creuser tel pain point, la gestion des départs, les cartes perdues, enfin un peu que sais-je, il y en a plein. On va aller creuser tel pain point, on va aller vraiment parler avec les clients, faire des questionnaires et on prépare le terrain pour l'équipe INO, dès qu'ils ont un peu de bande passante, ou alors le mettre à la roadmap, améliorer telle ou telle fonctionnalité. Et donc le but, c'est d'une part d'avoir du ressenti avec la relation client et d'autre part d'avoir quelque chose de factuel et mesurable parce que c'est beau d'avoir une idée quand on parle avec un client, mais moi par exemple, je parle surtout à des très gros comptes, leurs problématiques ne sont pas les mêmes que des comptes moyens et ni les mêmes que des insights. Donc ce qui est important, c'est d'aller vérifier que en faisant telle amélioration, ça ne devienne pas une régression pour d'autres clients.
Et en parlant de choses tangibles et mesurables, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les KPI? J'avais noté la satisfaction dont tu as parlé beaucoup tout à l'heure. Est-ce que c'est l'objet d'un KPI en tant que tel?
Je trouve ça compliqué, moi, de parler de satisfaction sur un KPI. Typiquement, toi, si tu dois donner une note à un chauffeur Uber, comment est-ce que tu t'y prendrais pour le noter? Est-ce que tu lui mettrais 5 sur 5 parce que tu sais que c'est pas cool? Si on leur file un 4, ça dégrade leur moyenne et ils doivent faire des stages de je sais pas quoi. Est-ce que au contraire, tu fais partie des personnes qui disent non, je peux pas mettre 5 sur 5 parce que c'est jamais parfait, on peut toujours s'améliorer? Donc en fait, je trouve que cette satisfaction, que ce soit au travers du NPS ou au travers de questionnaires, elle est tout le temps subjective par rapport au client. Et en fait, un client pourrait dire, mais non, c'est super, moi je vous mets 8 sur 10, et 8 sur 10, c'est pas un ambassadeur sur le NPS. Donc on doit toujours aller chercher à avoir le 10 sur 10, c'est une évidence. Mais en revanche, ces KPIs-là, évidemment, le NPS fait partie des KPIs, mais je trouve, en tout cas, ça dépend comment on utilise ces KPIs, mais pour définir vraiment que ce soit de la productivité ou de l'efficacité ou ce qu'on veut, c'est important de ne pas que se fier à du mesurable mais subjectif derrière. Moi, je le vois en fait avec des clients, parfois on répond un 9 sur 10 ne veut pas dire la même chose d'un client à un autre, quoi. Et du coup, on ne peut pas se satisfaire de ça, on ne peut pas se dire, tiens, pourquoi il t'a pas mis 10, c'est pas bien, il faut aller au-delà de ça.
Alors, c'est quoi les KPI?
Alors, on parle des KPIs pour par exemple si on a un variable et définir si on atteint ses objectifs là-dessus ou c'est.
Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez des objectifs en tant que CSM, des objectifs, je sais pas, d'upsell?
Alors, aujourd'hui, non. Mais tu vois, je te dis ça sur l'NPS. Et en fait, jusque-là, on avait quand même des objectifs sur l'NPS, mais qui étaient plutôt des objectifs d'équipe. Quand je disais que quand je suis arrivé, l'équipe, on n'était pas encore bien structuré, machin et tout, typiquement, ça fait partie de ça. Il y avait pas encore, on n'avait pas encore mis en place des KPIs précis sur il faut ça, ça, ça. Et là, je suis en train de faire ça. Et en fait, j'essaye de réfléchir. Je suis pas seul à réfléchir là-dessus d'ailleurs. Mais la manière de faire des choses, des KPIs, où je me dis, tiens, si ça c'est fait, on part sur des bases solides pour le travail. Donc ça peut être avoir un Salesforce en état de marche, ça peut être assidu dans ses réponses, machin. Enfin, on peut réfléchir à pas mal de choses où il n'y a pas que l'avis du client qui compte, même si elle est très importante et que c'est ça notre finalité, mais on peut aller sur autre chose beaucoup plus facilement mesurable, on va dire. Donc moi j'essaie de réfléchir à ça et pour l'instant c'est une réflexion. J'ai pas encore abouti. Mais ça va venir vite parce que je vais essayer de mettre ça en place dans les prochaines semaines, slash mois.
Concrètement, est-ce que les équipes CSM vont avoir des KPIs correspondent à leur salaire variable et souvent à
Et
la lumière
obtempo,
de ce que
celle-là.
j'ai entendu sur le podcast, tu vois, il y a beaucoup d'upsell,
Ouais.
essayer de vendre des fonctionnalités supplémentaires. Là, typiquement, on avait dit que soit il y a certains clients qui pouvaient rentrer par la verticale ticket resto, mais potentiellement, comme vous avez élargi la proposition de valeur, est-ce qu'il y a des potentiels d'upsell qui seront détectés par le contact CSM?
Bah forcément, oui. Le truc, c'est que pour l'instant, bah, nos produits ne sont pas live. Si on se rappelle, là on est au mois d'août, si on se rappelle dans 2-3 mois, j'aurai une vision différente parce que nos produits seront live et du coup on aura des vrais potentiels, des vraies perspectives de cross-sell. Moi aujourd'hui, j'ai pas de. Aujourd'hui, il n'y a pas d'upsell cross-sell au CSM. Aujourd'hui, en tout cas sur le titre restaurant, il n'y a pas. Il n'y a pas d'objectif là-dessus et en fait, on n'en fait pas. Après, on n'a pas de problème pour avoir du lead, on n'a pas de problème à transformer, donc ce n'est pas non plus le besoin qui s'en est fait sentir. Je pense que demain, très clairement, on va avoir besoin de ça. Aujourd'hui, ma vision, encore une fois, c'est de l'opinion, c'est de la vision qui n'est même pas forgée sur l'expérience parce que je n'ai pas d'upsell cross-sell. Mais j'aime bien le fait de garder une relation de confiance avec un gestionnaire de compte et de ne pas mettre, on va dire, de côté un peu pécunier ou financier ou négociation contractuelle dedans et de laisser ça au sales. Aujourd'hui, j'aime bien cette idée-là. Évidemment, elle est à challenger et peut-être que si on se rappelle dans 6 mois, j'aurais changé d'avis. Mais voilà, je me dis, tiens, c'est intéressant de garder le fait que non, le CSM, c'est la voix du client dans l'entreprise. Ça doit être une relation de confiance. Donc, on peut, grâce au CSM, avoir de la très bonne satisfaction client. Donc, c'est facile de faire de l'upsell cross-sell. On peut éventuellement qualifier des leads. Je pense que c'est clairement quelque chose qu'on va mettre en place. Et d'ailleurs, je commence à réfléchir dessus. Mais voilà, je me dis, tiens, est-ce qu'on peut essayer de garder le fait que, pour l'instant, on ne met pas encore de côté contractuel, de côté pécunier à l'upsell cross-sell. Aujourd'hui, j'aime bien me dire ça. Mais peut-être que ça va changer.
Non, c'est intéressant. Donc, si jamais il y a des problématiques ou des opportunités d'upsell et cross-sell, ce sera a fortiori les biz devs qui reprendront la main sur cet aspect pécunier.
Je pense, mais encore une fois,
À voir dans le
ouais.
long terme.
Et en fait, non, mais si on pousse la philosophie un peu plus loin, je pense qu'une prise en charge CSM est extrêmement dépendante d'une part du produit et d'autre part de la maturité de l'entreprise. Typiquement, le titre restaurant est un produit simple. Il y a quelques difficultés qu'on a bien compris. Alors, on n'a pas répondu à tout encore parce que la roadmap, elle n'est pas extensible comme on veut, mais ça reste simple. On a des produits beaucoup plus complexes. Par exemple, Payfit, l'équipe onboarding, elle accompagne pas un client, si je dis pas de bêtises. Elle s'occupe de gérer tout l'historique de paye de ses clients pour les faire venir sur Payfit. C'est beaucoup plus compliqué en fait. On peut pas du tout raisonner de la même façon. Donc moi, je pense que vraiment cette prise en charge elle est complètement dépendante de la complexité du produit, d'une part. Et du coup, d'autre part, on va aussi avoir une dépendance à la maturité. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis en énorme phase de croissance. Aujourd'hui, Swile, on est juste une machine à onboarder. On ne s'occupe pas tellement de la rétention, même si on la regarde quand même d'un coin de l'œil. Et de toute façon, on sait que clairement, c'est le prochain sujet à adresser. Mais aujourd'hui, on était vraiment focalisé sur onboarding, onboarding, onboarding. Il faut que ce soit petit déjeuner, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit processé. C'est ce qu'on a fait depuis un an. En fait, on commence à avoir coché cette étape, mais sauf qu'on continue d'être en croissance globalement exponentielle. Donc vraiment, on doit être super concentré sur l'onboarding. Rapidement, on va commencer à avoir des clients qui seront depuis. Ça fait 2 ans et demi maintenant qu'on a commencé à commercialiser. Je sais pas, on va dire que la vie moyenne de nos clients aujourd'hui, elle doit être autour de 1 an. Ouais, ça doit faire ça, hein, avec la croissance exponentielle, on va dire ça. Bon, 1 an, ça va, c'est encore jeune, mais je pense qu'il y a pas mal de concurrents qui frappent à la porte, machin et tout, donc il va falloir sérieusement commencer à s'intéresser à la rétention, et du coup, je pense que ça va être une problématique, enfin, je pense, je sais que c'est une problématique qu'on va prendre à bras le corps assez rapidement. Et du coup, c'est lié à la maturité de l'entreprise, et à ce moment-là, peut-être qu'on va aussi adapter notre prise en charge CSM. Est-ce que ça va être par créer un pôle à compte management? Est-ce que ça va être par redéfinir ce qui est fait aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait une équipe onboarding restreinte? Est-ce qu'on aurait automatisé des trucs et du coup, ce n'est pas à partir de 100, mais à partir de 300 qu'on commencera à les prendre en charge? Enfin, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ça ne doit pas être figé dans le temps. et on doit vraiment s'adapter et être propre aux besoins spécifiques de l'entreprise et du produit à un instant T.
Et vous qui êtes les champions maintenant de l'onboarding, voilà, vous avez scalé tous vos process, vous arrivez à absorber plein de nouveaux clients en très peu de temps.
Non, non, on
Est-ce
a plein de trucs à faire encore. On n'est pas
que
du tout des champions. Alors là, non,
Bon.
non. On en fait plein, mais on est loin. Oula. Alors là, il reste du chemin à parcourir.
Bon, est-ce que, à la lumière, on va dire, de l'expérience de Swile à ce moment où on se parle, est-ce que tu aurais peut-être trois astuces pour réussir son onboarding et justement assurer une bonne satisfaction? Parce que tu disais tout à l'heure que bah, la satisfaction, il faut la construire dès le démarrage parce que c'est beaucoup plus difficile d'essuyer les plâtres par la suite.
Ouais. Bah le premier c'est customer centric en fait. Si on n'a pas un peu d'empathie, si on cherche pas, si on se met pas un peu la place et qu'on on doit chercher à être vraiment du côté du client, mais c'est pas des paroles en l'air quoi, c'est vraiment ça. Donc c'est le premier truc, c'est il faut être vraiment orienté client.
Donc ça veut dire que c'est pas un numéro en plus, il faut que tu ailles vraiment chercher son secteur d'activité, essayer de voir un peu
Le
comprendre
comprendre
son.
lui. Le comprendre lui en fait, comment est-ce qu'il a fonctionné au quotidien? On pourrait se dire, bon bah voilà, faut qu'il remplisse un CSV, et en fait on peut aussi se dire, tiens, comment il fait pour remplir son CSV? De quel logiciel il passe? Est-ce qu'il doit utiliser une formule ou est-ce qu'il a réussi à formater ça comme il faut, etc. etc. Enfin, on peut imaginer plein de trucs, mais c'est vraiment aller en profondeur, se mettre à la place, chercher à comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est le premier truc. Enfin, le premier truc, c'est customer centric. Vraiment se dire, ok, moi je dois faire attention. Mon objectif, ma finalité, c'est la satisfaction des clients. Donc ça, c'est le premier truc. Et si on l'a pas, on passe forcément à côté de la première fois. Le deuxième truc, c'est d'aller chercher le détail. Pour moi, c'est deux choses différentes. Aller chercher le détail, c'est ce qui va permettre de comprendre la complexité d'un compte, de comprendre justement d'avoir ce petit, ce, on va dire, la petite valeur ajoutée qui va faire que bah, ça va bien se passer et que en plus, le client va être super content de la prise en charge. Et donc, bah, l'exemple que je donnais tout à l'heure, vraiment comprendre comment il fonctionne, aller chercher ça, pour moi, c'est un gros plus. Si tu vois, moi, j'ai aucun souci avec le fait de rencontrer des problèmes avec un client. C'est normal. Et en plus, la plupart du temps, alors parfois, c'est de notre faute. Ouais, on a eu un bug, on a eu une régression, il y a eu un truc, bon, très bien. La plupart du temps, ce n'est pas tellement de notre faute. On fait livrer des cartes par la poste, on fait livrer des cartes par TNT, des problèmes de suivi, des problèmes de machin, des adresses qui n'existent pas. On peut avoir plein de trucs. Ce qui est important en fait, c'est bah ok, on rencontre des problèmes, mais on sait gérer ça en fait. On assure avec le client, c'est-à-dire qu'on le tient informé, on m'en parle, on va se donner pour essayer d'améliorer les choses, pour dire ok bah tiens là pour que ça se passe bien, en plus il y a une deadline, on approche de la fin de mois, faut que les utilisateurs aient leur carte bientôt, etc. Enfin, on réfléchit, on va dedans et vraiment on se dit bah ok on a eu des problèmes, mais on s'est donné et on est allé au bout et on a trouvé des solutions et finalement ça s'est bien passé. Et à la fin du compte, on a l'admin qui nous remercie, qui nous met une bonne note, qui machin, c'est ça qui est bon quoi.
Oui,
Même
je comprends
si
mieux.
on a eu des problèmes, bah ça va bien se passer. Et du coup, ouais, c'est ça qui est. Donc c'est pas qu'un effet wow, c'est dire ok, bah c'est pas du vent. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous différencie de la concurrence, très sincèrement. Parce qu'on me l'a dit. J'ai des clients qui m'ont dit qu'ils venaient de la concurrence, qui m'a dit ok, ouais, bah ok, c'est pas parfait. Hein, de toute façon, il y aura toujours des améliorations à faire sur le produit, mais au moins, il y a du répondant. Et ça, c'est super important. Et du coup, il y avait un troisième point. Là, comme ça, je ne sais pas si c'est le troisième que je mets. Enfin, c'est celui qui me vient en tête. C'est chacun son rôle. Moi, quand je fais passer un entretien avec des personnes qui faisaient du CSM, je vois que c'était plutôt en fait du ticketing et du customer care. Alors, c'est pas du tout. Je cherche pas du tout à dénigrer quoi que ce soit. Mais pour moi, aujourd'hui, dans l'onboarding, je mets l'accent sur le fait de créer une relation, même si on est plutôt sur de l'e-touch, qu'on pa ne passe pas 3 heures au téléphone avec un client, créer une relation avec un client, montrer qu'on est là et faire ça sur du long terme. L'onboarding, ça dure 3-4 mois. C'est important. En revanche, on ne peut pas chercher à faire de la pédagogie, de l'anticipation, de la proactivité et être super actif. Donc pour moi, il y a un temps pour tout. Et surtout, il y a aujourd'hui, en tout cas chez Swile, il y a un care et un CSM. Et le care est ultra performant, mais vraiment, c'est hallucinant le travail qu'ils font pour répondre super vite, pour être au taquet, pour être présent, pour être vraiment réactif et être là. Donc c'est impressionnant ce qu'il fait. Mais du coup, eux, il faut qu'ils soient actifs. Et si nous, on commence à vouloir mettre
au CSM du côté réactif, bah, derrière, c'est le reste qui va pas aller. Parce que moi, je peux pas et être en réunion, être avec un call, avec un client et faire ça, et en même temps être taqué sur un chat ou je sais pas quoi. Donc ouais, répartition des rôles et pas courir plusieurs lièvres à la fois, à mon avis, ça peut être un bon troisième, je sais plus si c'était des conseils ou des
astuces. Oui, astuces, ouais, carrément. Et un CSM a un portefeuille dédié ou pas ?
Oui, mais il tourne parce que nous, CSM, c'est parfait ça, pour continuer le point que j'évoquais avant. À partir du moment où on a formé un client, on estime qu'il est autonome et on estime que tout se passe bien, la plupart des temps, du coup, on va faire une passation avec le CAIR. On va dire, bah, maintenant, en fait, vous savez tout faire. Ça fait 3 mois que vous êtes dessus, vous êtes complètement autonome sur l'interface. Moi, j'ai plus tellement de choses à vous apporter. En revanche, le jour où vous aurez besoin de nous, en fait, c'est parce que vous serez précisément bloqué à un endroit. Et voilà, j'ai commencé une commande, j'ai fait ci, ça, ça, et là, ça bloque à un endroit précis. Là, vous attendez pas à ce que quelqu'un vienne vous expliquer quelque chose. Vous attendez à ce que quelqu'un vienne débloquer une situation super rapidement. Donc, on sort du scope du CSM et on va dans le scope du CAIR. Donc, on a un portefeuille client qui a un turnover d'environ 3-4 mois. Donc, on a un portefeuille client dédié, oui, mais en fait, qui se renouvelle assez, assez souvent.
Ok, ouais, le meilleur service client, c'est de ne pas en avoir besoin, finalement.
Le fameux best support, is no support, ça, c'est vrai. C'est vrai, on doit tendre là-dessus. Mais il faut quand même avoir en tête que c'est bien, hein, ça, c'est la théorie. En pratique, c'est quand même bien d'avoir un service client performant parce que même si on a un très bon produit, il y a toujours des trucs à gérer.
Et pendant les 3 mois un petit peu de nurturing ou du moins d'onboarding, pardon, durant lequel le CSM va prendre en charge complètement son nouveau client, ça va ressembler à quoi la customer journey? Est-ce qu'il va y avoir, tu nous as parlé tout à l'heure des séquences mail un peu automatiques, même si elles sont choisies, est-ce qu'il va y avoir un point téléphonique? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres physiques aussi ou c'est seulement réservé peut-être aux plus grandes entreprises?
L'épisode de Gauthier vous plaît? Alors rendez-vous dans la deuxième partie. À tout de suite!